Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Et nous allons regarder le psaume 55. Psaume 55. Et voici la parole de Dieu. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, cantique de David. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'erre çà et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent, et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin, j'irais séjourner au désert. Je m'échapperais en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Réduis à néant, Seigneur, divise leur langue. Car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles en font jour et nuit le tour sur les murs. L'iniquité et la malice sont dans son sein. La méchanceté est au milieu d'elles, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera, lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Car il n'y a point en eux de changement et ils ne craignent point Dieu. Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. Jusque-là, la parole de Dieu. Ce psaume 55 est le dernier d'une série dans laquelle nous voyons la réponse de David face à la trahison. Et on a une progression qui grandit en intensité. Et de sorte que ce psaume 55 répond à la pire forme de trahison. On a vu la trahison de Doeg, l'Édomite, le serviteur de Saül. On a vu les Ziphiens, qui faisaient partie de la même tribu de Juda que David. Mais ici, David nous dit que la trahison vient d'un de ses compagnons, d'un proche, d'un ami. Et les effets de cette trahison, et on peut le comprendre, sont beaucoup plus pénibles, beaucoup plus difficiles à vivre que dans les situations précédentes. Et on voit que dans ce psaume, David, on le voit qu'il titube sous le coup de cette amitié qui a été violée, de cette alliance qui a été brisée. Et la souffrance que David décrit ici est un avant-goût que de la souffrance que connaîtra son descendant, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé de sa trahison en Jean 13, verset 18. Et il va citer un autre psaume de David, il va citer le psaume 41, où il dit ceci, « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Et le Seigneur cite cela quand il est avec ses disciples, avant que Judas ne sorte de la pièce. On peut conclure à juste titre que la souffrance de David au sujet de la trahison d'un ami nous donne donc un aperçu de la souffrance, de la douleur qu'a connue notre Seigneur Jésus-Christ quand il a été trahi par Judas Iscariote. La douleur que connaît David l'a amené à chercher un abri pour se réfugier, comme il le dit au verset 9, du vent impétueux et de la tempête. Il va trouver cet abri en se tournant vers le Seigneur dans la prière. Il dit au verset 17, « Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. » Et ce psaume 55 ne nous décrit pas seulement la douleur de David dans cette affliction, mais, et c'est une très grande aide pour nous, il nous montre comment, par la foi, nous pouvons nous remettre de ce genre de trahison. Et le psaume progresse dans trois sections bien distinctes. Dans les versets 2 à 9, nous avons les cris de peur de David. Dans les versets 10 à 16, nous avons la colère de David contre celui qui l'a trahi. Et dans les versets 17 à 24, on voit David qui se ressaisit en trouvant cet abri dans la prière. Et il décrit sa foi. Il passe de la peur à la colère pour ensuite connaître la sortie par le moyen de la foi. Premier point donc, les cris de peur de David, les versets 2 à 9. Et la prière de David commence par cet aveu franc de son besoin de sentir la présence de Dieu dans la prière. Il commence, verset 2, « Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, ne te dérobe pas à mes supplications. » David se sent terriblement seul et il ouvre son cœur à Dieu. Il reconnaît qu'il a besoin de ressentir la grâce de Dieu, la présence de Dieu. Verset 3, « Écoute-moi, réponds-moi, j'erre ça et là dans mon chagrin et je m'agite. » Ce terme « agiter » peut se traduire par « gémir » ou même littéralement c'est « faire du bruit ». David est un homme qui commence à prier. Il découvre que le sujet de sa prière est si écrasant que la première chose qu'il fait, c'est de soulager son cœur, de déverser son cœur à Dieu. Et il demande au Seigneur de lui venir en aide. Il veut être sûr que Dieu va, que sa prière sera entendue. Et une fois que David sait qu'il se trouve entre les mains de Dieu, il va craquer complètement. Et il va exprimer sa peur, sa crainte, son angoisse. Il parle au verset 4 de la voix de l'ennemi. Plus littéralement, c'est le bruit de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. David ne doit pas faire face au mal ou à la méchanceté en général, telle qu'elle existe dans ce monde, mais cette méchanceté est dirigée de manière spécifique et malicieuse contre lui. Et David reconnaît qu'il est devant le Seigneur, qu'il est dépassé, qu'il est bouleversé par tant de malveillance. En public, David donne l'impression d'être quelqu'un de posé, de calme. Mais là, quand il vient devant le Seigneur dans la prière, il est comme un enfant qui éclate en sanglots, qui vient trouver refuge dans les jupes de sa mère. Versets 5 et 6. « Mon cœur tremble au-dedans de moi. Les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. » David est en proie à une très grande crise d'anxiété. Il est complètement dépassé, bouleversé par cette trahison d'un ami, quelqu'un qui lui était proche. Et on pourrait penser que c'est surprenant venant d'un tel homme comme David. David fait partie de ceux qu'on appelle les géants de la foi. Il a abattu Goliath quand personne d'autre ne voulait le faire. Il a conduit les troupes armées pendant plusieurs années alors qu'il fuyait le roi Saül. Et après la mort du roi Saül, il y a eu une guerre civile pendant 7 ans. David se montre très habile. Il semble que cette prière soit écrite après tous ces événements. Un moment où l'on pourrait penser que David était plein de force. David parle de la ville, sans doute Jérusalem. Donc cela suggère que ce psaume a été écrit pendant ces années où David était maintenant roi sur Israël, quand le pays était uni. Alors comment un homme comme lui, à un tel moment de sa vie, pouvait-il s'effondrer complètement quand il fait face à cette trahison, à cette épreuve? Un commentateur suggère qu'il voit la peur de David, il voit son effondrement comme des signes de ce qui arrive quand on est gagné par la lassitude de la vie. Et c'est Winston Churchill qui a dit que la lassitude nous rend tous lâches. Et c'est souvent une personne qui est avancée en âge, qui est plus expérimentée, qui a vu beaucoup de choses dans la vie, qui sera plus vulnérable à l'anxiété et à la crainte, parce que, à cause de ce qu'elle a vu au sujet de la réalité dans la vie. Et souvent, cette personne a aussi moins d'énergie pour faire face aux problèmes. David a connu toutes sortes de violences, il a connu la guerre, il a connu les combats. Son cœur était maintenant saisi d'une terreur. Mon cœur, verset 5, mon cœur tremble au-dedans de moi. Les terreurs de la mort me surprennent. Il faut bien comprendre que ce n'est pas incohérent pour une foi vraie et vivante de s'effondrer dans la crainte devant quelque chose de terrible. Et pour le prouver, il suffit d'aller considérer l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même dans le jardin de Gethsémané, alors qu'il fait face aux horreurs incroyables de la croix. Et dans ce psaume, David est un type du Seigneur Jésus-Christ, une ombre du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, rappelez-vous, est tombé à genoux. Luc 22, verset 44, dit « Étant en agonie, Jésus priait plus ardemment. » Et le Seigneur a connu une telle anxiété que les vaisseaux sanguins de son front ont éclaté, le sang a coulé de son front alors qu'il priait son Père de retirer la croix, si cela était possible, avant de se soumettre à la volonté de son Père. Cela nous rappelle que dans son humanité réelle, en tant que serviteur souffrant de l'Éternel, le Seigneur Jésus a souffert le pire mal que le monde puisse inventer. Et donc, quand un croyant comme David s'effondre dans la crainte devant la mort ou devant des problèmes insurmontables, ce que le croyant doit faire, devrait faire, c'est de regarder au Seigneur Jésus-Christ. Parce que voilà quelqu'un qui sait par quoi je traverse, puisque lui-même a traversé encore pire que moi. L'humanité du Seigneur Jésus-Christ est réelle. Il a réellement connu la pire des souffrances et il l'a fait pour notre salut. Le croyant peut se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, découvrir que le Seigneur Jésus est plein de compassion pour les siens. Il est capable d'avoir de la compassion, de la sympathie pour nous à cause de ce qu'il a enduré pour nous. Et Jésus nous montre le modèle de l'homme de foi. Le Seigneur Jésus n'est pas seulement l'objet de notre foi, il est aussi le plus grand exemple de notre foi. Et il nous montre comment l'homme, en proie à la crainte, s'adresse à Dieu dans la prière et se retrouve fortifié, plein de courage. Et le Seigneur Jésus-Christ a pu affronter Pilate, les soldats romains, et finalement la croix. Mais David n'est pas encore à ce stade. Et dans les versets 7 et 8, il ne pense qu'à sortir de cette terrible épreuve. Verset 7, je dis, « Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, je trouverais le repos. Voici, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert. Il parle de la colombe parce que, on ne sait pas toujours, mais la colombe est le plus rapide des petits oiseaux. On savait que la colombe pouvait s'échapper devant le faucon. Et David dit, j'aimerais être comme la colombe et mes ennemis ne pourront pas m'attraper. Mais Dieu n'a pas trouvé bon de donner à David les ailes de la colombe qu'il désirait tant. David est un homme avec une grande vocation. Il a une grande responsabilité et il ne va pas être en mesure de fuir ses problèmes. Et pourtant, ce psaume, il est possible qu'il a été écrit à un moment où David a dû fuir Jérusalem. On ne le sait pas, mais ce psaume va bien avec les événements du coup d'État d'Absalom contre son père David. David s'est retrouvé à devoir fuir la ville de façon soudaine. Que ce soit à ce moment-là ou à un autre, Jean Calvin commente, il dit, nous pouvons certainement dire que ce sont les paroles d'un homme conduit aux frontières du désespoir. Dieu ne donne pas les ailes qu'il désire pour fuir ses problèmes. Et très souvent, Dieu ne nous donne pas les ailes pour fuir nos problèmes. David veut trouver l'abri au milieu de cette tempête et il va trouver cet abri. Mais non pas en fuyant ses problèmes, mais en se tournant vers le Seigneur. Et c'est là qu'il va trouver l'abri dont il a besoin. Et on peut louer Dieu que celui qui avait la capacité de fuir ses problèmes, ses épreuves, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fui ses problèmes, ses épreuves. Au contraire, il a choisi de se soumettre à la volonté de Dieu afin d'accomplir le salut, de nous apporter le pardon pour nos péchés. David non plus n'a pas pu fuir ce problème. Il a sans doute fui Jérusalem, mais il n'a pas pu fuir ses problèmes. Et donc il commence par crier à Dieu et lui manifester sa peur, sa crainte, son angoisse. Deuxième grand point, David va exprimer sa colère outrée contre la méchanceté de son ennemi. L'ennemi, comme David le dit, se trouve à l'intérieur des murs de la ville. Il dit au verset 10 à 12, « Réduis à néant, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles en font jour et nuit le tour sur les murs. L'iniquité et la malice sont dans son sein. La méchanceté est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. » David jette un œil sur la ville, sa vision est très négative. Il va citer un certain nombre de vices, violence et querelles font le tour des murs, iniquité et malice et méchanceté sont dans la ville, fraude et tromperie sont sur les places de marché. Et David réalise que le problème n'est pas la ville dans un sens abstrait. Le problème, ce sont les gens qui habitent la ville. Et c'est la description des problèmes que nous rencontrons dans nos villes aujourd'hui. Un commentateur dit ceci, il dit « Nous voulons toujours imputer nos problèmes à l'environnement, aux programmes gouvernementaux ou à l'absence de programmes gouvernementaux. Mais le problème n'est pas là, il est ici, en nous. Le problème, c'est que nous sommes pécheurs. Et cela signifie qu'il n'y aura jamais d'amélioration substantielle dans l'état moral de nos villes ou de notre pays entier, jusqu'à ce qu'il y ait une amélioration morale profonde dans le peuple. Et cela ne peut venir que dans la nouvelle naissance qui accompagne la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. » Il conclut, « Il n'y a rien dont notre pays a autant besoin maintenant que Jérusalem n'avait besoin dans le passé, à savoir un réveil et une réformation que produit l'Esprit-Saint. » Si nous sommes tentés dans notre amertume à cause des choses qui nous arrivent, de regarder par la fenêtre et de dire « Mais regardez donc cette société !» Nous ne devons pas oublier que le problème du péché est un problème dans lequel nous participons aussi. Et la réponse au problème de la ville, c'est la proclamation fidèle de l'Évangile. Ce sont des vies transformées par l'Évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. David est perplexe quand il regarde par la fenêtre, mais le coup qui est passé sous sa garde, qui a touché son cœur, est un coup qui est venu d'un proche. Et David se plaint de cela, versets 13 et 14. « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. » Voilà la situation qui se démarque, qui fait que ce psaume 55 se démarque des autres psaumes similaires qui parlent des inquiétudes et de la peur du psalmiste. David aurait pu contrer le coup d'un ennemi, mais cette attaque vient de quelqu'un qui lui était proche. David le décrit comme mon confident, mon ami. Une autre version dit « Toi, mon intime, qui m'est si familier ». Et David continue en disant combien tout cela lui brise le cœur. Voilà quelqu'un avec qui David avait l'habitude de prendre conseil ensemble. David lui avait ouvert son cœur, verset 15. « Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. » Il y avait un lien fort, un engagement spirituel avec cet ami. Mais à sa grande consternation, le coup est venu et David a été trahi. La situation la plus probable derrière ce psaume, et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la révolte d'Absalom contre son père. Quand ce coup d'État s'est déroulé, David était plus particulièrement attristé par la rébellion de son principal conseiller, Achitophel. Et on lit cela en 2 Samuel 15. Et certains pensent que derrière l'expression « toi mon confident », il s'agit bien d'Achitophel. Mais que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, il s'agit de quelqu'un qui était très proche à David. David avait connu beaucoup d'ennemis avant, mais cette attaque l'a marqué beaucoup plus parce qu'elle venait de quelqu'un en qui David avait confiance. Et cette trahison blesse David. C'est encore une preuve de la corruption totale de l'état pécheur de notre race. Beaucoup de personnes peuvent s'identifier avec cette réalité et peuvent dire « J'ai été trahi par un ami en qui j'avais confiance. » Soit nous avons connu cette réalité ou nous connaissons des personnes qui connaissent cette réalité, qui ont été trahies, soit par un conjoint ou par un collègue de travail, par un parent, par un ami proche. La trahison, elle fait mal. Et David exprime son angoisse à ce sujet. Verset 21, il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Une alliance qui a été violée, des paroles douces qui cachaient des armes de destruction, des armes qui atteignent le cœur. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qui pousse une personne à trahir une autre? Concernant Achitophel, c'était tout simplement une lutte pour le pouvoir. En trahissant David, son roi, et en se rangeant du côté du fils du roi Absalom, qui était plus faible, c'était le pouvoir d'Achitophel qui allait grandir. Achitophel allait avoir plus de pouvoir. Pour l'orgueil du pouvoir, Achitophel a trahi David. Et c'est la même chose aujourd'hui. On peut se demander parfois pourquoi telle personne agit de telle façon, et ce n'est pas très compliqué. C'est par convoitise, c'est par orgueil, c'est par appât du gain. Et ces choses-là sont dans le cœur de l'homme. Les liens d'amitié, les alliances sont prises à la légère. S'il y a l'occasion d'avoir une meilleure affaire, les gens sont prêts à trahir leur famille, à trahir leurs amis et à les écraser. Mais le point que fait le psaume 55 est le suivant. Ce n'est pas seulement que ce sont les blessures les plus graves de toutes et David les déplore, mais ce que nous voyons dans ce psaume, c'est comment nous devons répondre à une telle trahison. parce que notre réponse déterminera le genre de vie que nous allons vivre. Et quelle est la réponse de David? On a déjà vu que lorsque David regarde par la fenêtre et qu'il regarde la ville, sa vision est cynique, mais elle est réelle, c'est une vision amère. Dans le verset 10, on le voit prier contre ses ennemis. Il demande à Dieu d'amener de la confusion sur ses ennemis. Verset 10, réduis à néant, Seigneur, divise leur langue. Et cette requête de division nous renvoie à la tour de Babel. C'est le même langage qui est utilisé. Seigneur, envoie la confusion sur eux, afin qu'ils ne puissent pas travailler ensemble et que leur plan échoue. David prie que Dieu envoie la discorde, le conflit entre ses ennemis, afin que leur cause s'écroule comme la tour de Babel. C'est exactement de cette façon-là que David a prié contre Achitophel pendant la révolte d'Absalom. En 2 Samuel 15, verset 31, on lit ceci, on vint dire à David, « Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. » Et David dit, « Ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. » Et Dieu a répondu à cette prière. Achitophel avait choisi le camp d'Absalom pour avoir plus de pouvoir. Mais Absalom refuse d'écouter le bon conseil d'Achitophel. Et c'est une chose terrible d'avoir Dieu comme ennemi. 2 Samuel 17, verset 14. « Or l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. » Et avant même de voir comment les choses allaient se dérouler, on lit en 2 Samuel 17, verset 23, « Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. » Voilà la fin de cet homme. Il savait que Dieu avait envoyé la confusion, que son conseil n'était pas suivi, qu'il va tomber sous le jugement de Dieu. Et il ne veut pas se repentir. La prière de David contre ses ennemis n'est pas une mauvaise prière. Dieu envoie la confusion afin de détruire leur capacité à travailler ensemble quand ils cherchent à détruire son peuple. Mais David ne s'arrête pas là. Il continue au verset 16. Il exprime son désir de voir la destruction totale tomber sur ceux qui lui ont fait du mal. Que la mort les surprenne. Qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. On doit toujours faire attention quand on veut critiquer le psalmiste dans ses prières qu'on appelle les prières imprécatoires contre quelqu'un. Ce sont des prières où le psalmiste demande à Dieu de frapper, de faire du mal afin de se venger des méchants. N'oublions pas que David est roi quand il écrit, qu'il est aussi prophète. Il est juste de vouloir la chute des méchants. La gloire de Dieu est impliquée dans le renversement des méchants. Et Jean Calvin écrit ceci. Ce n'était pas un souhait exprimé dans un moment de ressentiment ou de zèle imprudent et irréfléchi et qui nous justifierait de lancer des malédictions contre nos ennemis à chaque provocation insignifiante. L'esprit de vengeance diffère largement de la ferveur sainte et réglée avec laquelle David prie pour le jugement de Dieu contre les hommes méchants. David, prophète et roi, a le droit de prier ce genre de prière, mais il faut veiller à ne pas tomber dans un esprit de vengeance. L'amertume qui est exprimée dans le verset 16 est une attitude qui fait habituellement plus de mal à la victime qui est amère qu'à la personne contre qui cette personne prie. Et pour cette raison, alors que nous ne voulons pas juger la parole de Dieu, nous ne voulons pas juger le droit que David a de prier comme il le fait, nous serions tristes si la prière de David se terminait au verset 16. Ce ne serait pas une résolution très saine pour lui, alors qu'il réagit au péché de trahison qui ont été commis contre lui. Le problème de l'amertume que l'on peut ressentir face au péché, en particulier face à une trahison, est un problème majeur. Et on peut voir toutes sortes d'exemples dans la vie aujourd'hui. On peut penser à des femmes qui ont été trahies par leur mari, ou inversement, qui ont été abandonnées, qui, des années plus tard, à cause de l'amertume, de la rancœur dans le cœur, ne sont pas capables d'avoir une relation sérieuse. Leur amertume a volé la capacité de faire confiance. Certaines personnes sont victimes d'églises infidèles. Elles vont passer le reste de leur vie à déverser du venin sur la véritable Église. Des hommes et des femmes qui vont passer toutes leurs années d'adultes à bouillonner intérieurement à cause de souffrances qu'ils ont vécues pendant leur enfance, de la part de leurs parents ou de la part de copains à l'école. Toutes ces personnes sont dignes de compassion. Mais on devrait aussi les avertir du danger de nourrir un esprit d'amertume. Un esprit d'amertume est un acide qui ne détruit que le récipient qui le contient. Mais quelle est l'alternative ? L'alternative que nous donne la parole de Dieu, c'est de pardonner ceux qui ont péché contre nous. Pas parce qu'ils méritent notre pardon, ils ne le méritent pas, mais parce qu'ils ne sont pas les seuls qui ne méritent pas d'être pardonnés. Moi non plus, je ne mérite pas d'être pardonné. On doit se rappeler que si quelqu'un pêche contre nous, il ne péchera pas plus que nous n'avons péché contre Dieu. Et Dieu nous a pardonnés en Christ. Et donc, si nous ne pardonnons pas aux autres parce qu'ils le méritent, mais nous pardonnons comme un acte d'adoration pour ce Dieu de grâce qui nous a pardonné nos péchés en Jésus-Christ. Et nous réglons ainsi notre attitude avec les autres. À noter, en passant, que le pardon n'est pas synonyme de confiance. On ne peut pas dire à quelqu'un qui a été trahi qu'il suffit de faire à nouveau confiance à la personne qui vient de commettre cette trahison. On ne peut pas mettre notre confiance dans ceux qui sont infidèles, mais on peut pardonner à ceux qui pêchent contre nous. Éphésiens 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le pardon est quelque chose de vital dans le témoignage de l'Évangile, mais c'est aussi le meilleur moyen de nous protéger d'une amertume qui nous détruirait. C'est aussi le meilleur moyen de redonner à nos cœurs la paix, la joie qui caractérise les enfants que Dieu a pardonnés. David était le roi d'Israël. Il avait le devoir l'appelait à faire plus que simplement pardonner. Il devait prendre des mesures contre ces faiseurs de mal. Après avoir exprimé sa crainte et sa colère, David conclut ce psaume avec une expression de ce dont il avait vraiment besoin, sa foi. Troisième grand point. Et David donc exprime sa foi quand il trouve cet abri. Il donne un exemple précieux, pas simplement à ceux qui luttent avec une trahison, mais à ceux qui luttent pour ne pas laisser une affliction émotionnelle dominer la vie. David a commencé à aller devant le Seigneur pour lui ouvrir son cœur, lui parler de sa crainte. Il a été ensuite très honnête au sujet de sa colère. Mais c'est quand il se tourne vers la foi que le psaume 55 est résolu. Cela est bon pour sa santé spirituelle. Et David nous dit, et dit au lecteur, trois vérités importantes qu'il a apprises dans la prière. La première, il sait que Dieu l'entend réellement quand il prie. Versets 17 et 18. « Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. » David est béni par une vie de prière bien structurée. Il parle de trois périodes dans la journée où il entrera dans la présence de Dieu, le soir, le matin et à midi. C'est un exemple pour nous montrer qu'un des moyens pour améliorer notre vie de prière, c'est d'avoir une structure dans notre vie de prière. Les trois périodes de David correspondent à peu près au moment des repas. Et il sait que comme son corps a besoin de nourriture, son âme aussi a besoin d'être nourrie. Et David sait que Dieu l'entend. Il a parlé à Dieu de la douleur de cette trahison. Il sait que Dieu l'a entendu. Quand nous connaissons des craintes, quand nous avons été blessés, quand nous sommes dépassés par ce qui nous arrive, on devrait faire comme David. C'est vrai que on a besoin d'amis vers qui on peut aller, avec qui on peut prier. On a vu l'exemple de Jonathan la dernière fois. On a besoin d'amis avec qui on peut pleurer, avec qui on peut s'encourager mutuellement. Mais David sait que ce qui a encore plus de valeur que d'avoir un ami, c'est de pouvoir parler de nos problèmes à Dieu. D'avoir cette liberté d'entrer dans la présence de Dieu. David dit « Dieu entend ma voix ». Dans le psaume 34, David le dit de cette façon, verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Dieu nous connaît mieux que quiconque. Alors allons à lui, présentons nos peurs, présentons-lui nos craintes, nos blessures, et sachons avec certitude qu'il entendra la voix de ses enfants. Il est ce Père qui nous aime plus fidèlement que nous n'osons même l'imaginer. Dieu, David sait que Dieu l'entend. Deuxièmement, David sait que Dieu le sauvera. Très souvent, quand on a été trahi, quand quelqu'un a péché contre nous, notre cœur va s'écrier, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais perdre tout ce pour quoi j'ai travaillé. J'ai été calomnié au travail. Mon patron m'a maltraité. La personne en qui j'avais confiance a pris ma place. Mon conjoint m'a quitté. J'ai été trahi. On a peur. Et David dit, rappelez-vous, j'ai un Dieu qui est souverain. J'ai un Dieu qui connaît toutes choses, qui m'aime, qui m'a démontré son amour pour moi. Et nous avons encore plus de preuves de l'amour de Dieu pour nous. Nous regardons la croix. Nous regardons la croix de Jésus-Christ. Et nous pouvons dire que, avec tout ce que nous savons, Dieu a envoyé son Fils pour mourir à ma place. Et c'est une preuve de son amour pour moi. Et il va me délivrer. Il me délivrera, verset 19, il me délivrera de leur approche. Il me rendra la paix. Car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra, il les humiliera. Lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Et dans cette dernière phrase, David se rappelle que Dieu peut s'occuper de cette situation. Dieu qui est éternel, qui n'a besoin de personne, qui est rempli de gloire, ce Dieu peut me sauver. Il est sur son trône. Il est assis. Personne ne va l'enlever de ce trône. Alors oui, je vais trouver réconfort en lui et je vais lui rendre la louange de ma foi. Et troisième chose que David dit, c'est qu'il se console avec cette certitude que Dieu va juger les méchants, qu'ils ne se repentent pas. Le mal ne va pas triompher. Si on s'inquiète à ce sujet, ce ne fera qu'augmenter notre amertume quand on traverse des moments difficiles. Rappelons-nous par exemple le psaume 73. Voilà un homme qui reconnaît très honnêtement que sa colère, son amertume à l'égard du succès apparent des riches qui ne craignaient pas Dieu, ne faisait que ruiner sa vie, détruire sa joie. Jusqu'à ce qu'il dise au verset 17, « Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. » Ah pourquoi? Oui, Dieu se rappelle que Dieu dit dans sa parole que les méchants seront jugés, punis. Alors pourquoi envier ces personnes? Pourquoi être en colère? Pourquoi être contrarié quand ces personnes, après quelques années de richesse, vont tout perdre? Vont tout perdre, vont se retrouver en enfer, alors que moi je passerai l'éternité dans la gloire. Pourquoi être en colère? Quand on réalise ces choses, cela change notre attitude face à cette situation. Et c'est ce que dit le psalmiste. Nous aussi, nous devons apprendre à laisser le jugement entre les mains de Dieu. Oui, nous devons savoir que Dieu va juger. Il le fera en son temps, c'est une certitude. Il va juger les incroyants. Il va juger les méchants qui lèvent le poing contre Dieu, qui affligent les faibles, qui ne se repentent pas, qui ne se tournent pas dans la foi vers le Seigneur Jésus-Christ. Ils vont recevoir une condamnation éternelle, c'est une chose certaine. C'est pourquoi le Nouveau Testament nous dit, en citant Deutéronome 32, verset 35, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Parce que nous ne sommes pas compétents pour juger le monde avec droiture. Mais il semble que David a eu du mal à abandonner sa colère. Il y travaille, mais son indignation contre cette trahison est toujours là. Et on peut dire cela parce que dans le dernier verset, il revient sur le thème du jugement de Dieu, verset 24. « Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. » Le cœur de David ne peut trouver de repos que lorsqu'il se rappelle et qu'il est certain que Dieu va punir les méchants. Ils ne vont pas pouvoir échapper au jugement. Et quand David réalise cela, quand David fait cela, il est capable de faire ce qu'il doit faire, mettre cela de côté. Seigneur, c'est ton affaire. Moi, je ne suis pas le juge. Je ne suis pas celui qui va punir les méchants. C'est toi qui vas le faire. C'est pour ça que David termine en disant, c'est en toi que je me confie. Je te laisse le jugement. Moi, je me confie en ta miséricorde et en ta grâce pour mon salut. Il n'est pas facile de donner des conseils à quelqu'un qui a souffert ce genre de trahison, qui est pris dans l'indignation, la terreur. Il n'est pas plus facile de recevoir des conseils si on est dans cette situation soi-même. Mais en concluant ce psaume, David apporte des conseils. Il nous en donne en tant que quelqu'un qui a connu cette situation, cette épreuve. David a été, il a connu cette trahison d'un ami qui était proche. Son esprit a été déboussolé, son cœur a été blessé, son cœur a saigné. Sa douleur l'a amené dans la présence de Dieu pour prier. Trop souvent, on reçoit de mauvais conseils du genre « ne fais jamais confiance à quelqu'un » ou « scelle ton cœur pour de bon ». Ces conseils viennent de personnes qui sont amères, mais qu'est-ce que David dit ? Il dit au verset 23, « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Voilà le conseil de David. Le Seigneur est là. Le Seigneur nous entend. Il nous sauve. Il a tout sous son contrôle. Allons donc à lui. La douleur de David a été si grande que la seule chose à laquelle il pensait, c'était de pouvoir s'envoler. De s'envoler comme la colombe vers un abri. Mais David nous dit, non, j'ai trouvé cet abri. Il est là, et je peux y aller dans la prière. Le Seigneur est l'abri dans la tempête dont j'ai besoin. Remets ton sort à l'Éternel. L'épreuve que je traverse ne doit pas devenir le centre de ma vie. Remets ton sort à l'Éternel. L'apôtre Pierre revient là-dessus en 1 Pierre 5, verset 7, quand il écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et David nous dit que Dieu soutiendra ceux qui se confient en lui. Il ne permettra pas à ceux qui cherchent un abri en lui d'être vaincus par la peur. David nous donne un exemple. Le Seigneur Jésus-Christ nous donne un exemple encore plus grand. Quand il fait face au tourment de la croix, quand il se dirige vers le jardin de Gethsémani, Jésus savait ce qui allait arriver. Il savait que Judas Iscariote allait le rencontrer et le saluer avec un baiser. Et même si Jésus savait cela, la trahison n'en est pas moins amère. En Luc 22, 48, Jésus s'adresse à Judas et lui dit « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Certaines versions ont la phrase sous la forme d'une question. « Judas, est-ce avec un baiser que tu trahis le Fils de l'homme ?» Mais qu'est-ce que Jésus a fait, sachant cela ? Qu'est-ce qu'il a fait avant d'entrer dans le jardin de Gethsémani? Il lève les yeux au ciel et il prie, mais pas n'importe comment. Jean 17, verset 1. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Le Seigneur Jésus avait un ami plus intime, un confident plus fidèle que Judas Iscariote ou que n'importe quel autre disciple qui allait le trahir, qui allait le trahir de chacun de leur façon. Pour le Seigneur Jésus, c'était suffisant que le Père au ciel ne le trahisse jamais. Et la parole de Dieu nous fait cette promesse à tous ceux qui sont en Christ. Hébreux 13, versets 5 et 6, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Avec cette assurance, même au milieu de la difficulté, nous pouvons dire avec David, « C'est en toi que je me confie. » Et nous pouvons connaître la paix du cœur, sachant qu'en remettant notre sort à l'Éternel, il nous soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.